Merci Seigneur Esprit Saint de venir en abondance sur nous, d'ouvrir nos cœurs, comme tu as ouvert le cœur des apôtres, pour qu'ils puissent accueillir parmi eux le Christ ressuscité. De l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, les portes étant closes là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, cet évangile se situe le jour de la résurrection, le jour où le Seigneur est apparu déjà à Marie-Madeleine. Le premier jour de la semaine, dit l'évangile de Jean, parce que le dimanche, pour les chrétiens, c'est le premier jour de la semaine. La semaine commence le dimanche. Et c'est aussi le huitième jour. Mais c'est le premier jour, parce que c'est le jour de la résurrection. Pour nous, chrétiens, le premier jour de la semaine, liturgiquement, c'est le dimanche. On n'a pas toujours conscience, mais c'est comme ça. C'est le jour où le Christ est ressuscité. Tout part de la résurrection du Christ. Tout part de la résurrection du Christ. Alors, quand le Seigneur Jésus apparaît à ses disciples, ils ne sont pas en très grande forme. Peut-être vous l'aurez noté, ils sont même en très mauvaise forme. En fait, ils sont encore complètement traumatisés par ce qui vient de se passer. Ça s'est passé très rapidement. Jésus a été arrêté, il a été crucifié, jugé, crucifié, mis au tombeau. Tout ça pour les disciples. Le Seigneur avait beau les avoir prévenus 3 fois qu'il lui arriverait cela, ils n'avaient pas du tout anticipé. Donc ils ont été pris de court et ils sont traumatisés par cet événement. Ils ont l'impression d'avoir tout perdu, comme on le voit dans le récit des disciples d'Emmaüs. Et non seulement ils ont l'impression d'avoir tout perdu, mais ils sont dans l'angoisse, ils sont angoissés, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ben, ils ont peur de passer eux aussi à la casserole, c'est-à-dire d'être crucifiés comme Jésus, qu'après avoir arrêté le chef, on arrête tous les autres. Et c'est pour ça qu'ils se barricadent dans une maison à Jérusalem et ils ne font pas de publicité pour savoir là où ils sont. Ils se cachent, ils sont terrorisés. Donc l'Église, elle est plutôt mal barrée à ce moment-là, on peut le dire. C'est un groupe de personnes, hommes et femmes, qui sont terrorisées, à part peut-être la Vierge Marie, qui, elle, est toujours forte dans sa foi. Les autres, ils ont peur. Et c'est précisément dans ce lieu où les portes sont closes, et Jean insiste sur le fait que les portes sont fermées, que Jésus se manifeste. Il vient et il se tint au milieu. La position au milieu, c'est une position symbolique, ça veut dire « je suis là au milieu de vous, c'est moi qui suis au milieu de l'Église, c'est moi qui dirige les choses. » Comme l'arbre de vie était au milieu du jardin, le Christ, qui est l'arbre de vie de la Nouvelle Alliance, se tient au milieu de son peuple, au milieu de notre histoire. Il se tient au milieu d'eux, ressuscité, et il leur dit « paix à vous ». Dans tous les récits de résurrection, dans les évangiles, la première chose que Jésus dit, c'est toujours « paix à vous ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ce « paix à vous » ? Ce « paix à vous », ça veut dire « eh bien, je vous donne le fruit de ma passion et de ma résurrection ». Qu'est-ce que j'ai acquis par ma passion et par ma résurrection ? La paix. On pourrait se dire « c'est bien peu de choses, la paix ». Ben non, c'est énorme. La paix, ça veut dire la réconciliation avec le Père. Vous étiez en guerre avec Dieu, je vous ai réconcilié avec lui. Vous étiez en guerre les uns avec les autres, je vous donne la possibilité de vous aimer les uns les autres. Vous étiez même en guerre peut-être contre vous-même, je vous donne la paix du cœur. Je vous donne la paix pour que vous ayez la force d'annoncer ma résurrection. Et quand il leur donne la paix, il leur montre aussi ses mains et son côté. Et nous savons par la suite de l'évangile que les mains de Jésus ressuscité, elles sont trouées. Les mains du Christ ressuscité, elles sont trouées. Et le corps du Christ ressuscité, il est encore troué du trou que la lance a mis dans son corps. Et Jésus aurait très bien pu enlever les trous de sa main et les trous de son côté. Non, il voulait conserver ces trous comme signe qu'il a été crucifié, que c'est le même, celui qui est crucifié est aussi celui qui a été ressuscité Et ainsi, il peut reprendre la parole d'Isaïe, « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Voilà, ces blessures sur mes mains, ça signifie l'amour que je te donne, la vie que je te donne, ça signifie que je t'aime. Si un jour tu ne crois plus que je t'aime, regarde mes mains, regarde mon côté. C'est le signe que je t'aime et que je t'aimerai toujours et que je suis fidèle dans cet amour. Et donc pour les apôtres et les disciples, cette pelle est importante parce que eux, ils sont dans des sentiments de remords, peut-être de culpabilité. Ils ont renié le Seigneur. Ils l'ont renié. Ils sont partis quand Jésus est arrêté. Ils sont partis, ils ont fui. Au pied de la croix, il n'y a que quelques femmes. Et puis, il y a le disciple bien-aimé. Les autres, ils se sont tous partis. Donc, quand le Seigneur leur donne la paix, ça veut dire aussi, je vous pardonne de m'avoir renié. Je vous pardonne d'avoir trahi. Je vous pardonne d'avoir eu peur. Je vous pardonne de ne pas avoir eu confiance en moi. C'est tout cela, dans la paix du Seigneur, il y a tout cela. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on voit que les disciples sont remplis de joie. Ils étaient dans la peur, dans l'angoisse, dans la culpabilité. Le Seigneur, simplement par sa présence, par trois mots, paix à vous, et par sa présence, son corps ressuscité, leur donne la joie. Parfois, on se dit, mais comment faire pour arriver à la joie? Numéro un, je vais faire ceci. Numéro deux, cela. Numéro trois, cela. Ben non, c'est pas la peine avec le Seigneur. Le Seigneur est là, il nous donne sa paix, et cette paix, c'est notre joie. Et alors, à ce moment-là, il fait quelque chose d'extraordinaire, parce que les disciples, le Seigneur a pu se dire, ben, je vous ai choisi comme mes apôtres. Vous avez renié, bon ben je vais en prendre une autre équipe, on va changer d'équipe. Vous avez été digne de mon appel, vous êtes tous partis. Eh bien, au lieu de changer d'équipe, il reprend les mêmes, il leur pardonne et ensuite il les envoie en mission immédiatement. Ils ont fait l'expérience pour eux que Dieu les a pardonnés alors qu'ils ne méritaient pas d'être pardonnés. Ils ont fait l'expérience pour eux d'une miséricorde incroyable du Seigneur pour eux. Et bien maintenant, le Seigneur les envoie pour qu'eux-mêmes soient l'instrument de cette miséricorde pour les autres. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Autrement dit, le Seigneur les envoie de la part de son Père. Il souffle sur eux. Ce n'est pas anodin de souffler sur eux. Rappelez-vous qu'en Genèse chapitre 2, il est dit que Dieu a soufflé dans la bouche d'Adam pour lui donner la vie. Il a soufflé en lui. Le souffle divin, c'est le souffle de la vie. C'est l'Esprit Saint. Ce petit souffle de cet homme ressuscité, eh bien, c'est l'Esprit Saint, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui vient sur eux. La puissance de sa résurrection, la puissance énorme qui s'est déployée dans le corps du Christ pour qu'il soit ressuscité. Recevez l'Esprit Saint, leur dit le Seigneur. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et ça, c'est une phrase importante, parce que parfois, il y a des gens qui me disent, mais mon Père, moi je demande pardon à Dieu, ben, il me pardonne, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller voir un prêtre. Ben, le Seigneur, il a voulu que le pardon, certes, il peut le donner d'en haut, mais il passe par le prêtre, par l'évêque. Et le prêtre qui reçoit cette capacité de donner le pardon, il l'a reçu comment? Il l'a reçu parce qu'un évêque lui imposait les mains. Et l'évêque, il l'a reçu comment son pouvoir? Parce qu'un autre évêque lui imposait les mains. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on remonte toute la lignée, on arrive aux apôtres qui ont eux-mêmes imposé des mains à leurs successeurs. Et donc, il y a une tradition ininterrompue de personnes, d'évêques qui se sont imposés les mains les uns aux autres jusqu'à aujourd'hui pour que le prêtre reçoive un pouvoir qui vient du Christ lui-même sans interruption. C'est ça la tradition. La tradition, c'est qu'il n'y a pas eu d'interruption dans ce pouvoir qui a été transmis. Si un jour, il n'y avait plus de prêtres, plus d'évêques, plus de papes, eh bien, on ne pourrait plus transmettre. Et personne ne pourrait se dire, moi j'ai acquis le pouvoir comme ça, je claque des doigts, ça m'est venu. Non, c'est pas possible. Il faut avoir reçu cette imposition des mains qui vient du Christ pour avoir cette puissance de remettre les péchés, ce pouvoir de remettre les péchés. Évidemment, le Seigneur, comme le pape François nous le dit, nous demande, nous prêtre, eh bien, d'en abuser avec générosité. Maintenant, il y a toujours des conditions. Il faut désirer se convertir, il faut désirer cheminer avec le Seigneur. Mais le pape François nous invite à en faire largement usage pour que nos péchés soient pardonnés. Et c'est quoi l'intérêt que nos péchés soient pardonnés? Eh bien, on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que si nos péchés sont pardonnés et que nous, on a vraiment demandé pardon au Seigneur, eh bien, quand on meurt, on va directement au ciel. C'est quand même intéressant. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez pas la différence, mais le jour où vous serez dans la vie éternelle, vous vous direz, ouf, heureusement que j'ai demandé pardon au Seigneur, parce que ça m'a évité peut-être un long temps de purgatoire. Purgatoire, c'est le temps où il faut se purifier, faut que notre cœur vienne pur, ben là, le Seigneur fait, au lieu de monter l'escalier du purgatoire, on prend l'ascenseur, comme dit Thérèse, l'ascenseur de la miséricorde. Puis ça peut nous éviter d'aller en enfer si on a fait des péchés extrêmement graves. Le Seigneur est prêt à tout pardonner, pourvu qu'on lui demande pardon, qu'on reçoive ce pardon avec foi. Alors maintenant, je vais demander à Angèle et à sa famille de venir. Alors ils sont assez nombreux pour témoigner, pour soutenir Angèle. Comme ça, c'est plus facile pour Angèle de venir témoigner, toute la famille qui la soutient. Mais c'est aussi parce que toute la famille a prié pour elle. C'est aussi pour ça que je leur ai demandé de venir. Ceux qui viennent depuis un certain temps, vous aurez peut-être connu Thierry et José, qui sont déjà venus témoigner il y a quelques mois de guérison qu'ils ont obtenue pour eux-mêmes et pour d'autres. Et quand José était venu témoigner, il m'avait dit « Mon père, vous savez, je viens témoigner, mais ma femme, actuellement, elle est à l'hôpital, elle souffre beaucoup, énormément. Elle souffre énormément. Donc je viens témoigner, mais en même temps, il y a ma femme qui souffre. Donc priez pour elle. » Et donc on avait prié ensemble pour son épouse. Mais voilà, il témoignait dans la foi alors qu'il avait encore cette grande épreuve à porter. Alors, je vais d'abord laisser Angèle vous dire bonsoir.
Bonsoir.
Et puis elle m'a demandé de donner le témoignage qu'elle aurait bien aimé vous donner si elle n'était pas, si elle ne vous l'impressionnait pas autant. Donc, voilà le témoignage d'Angèle que j'ai vérifié encore tout à l'heure avec elle. Donc Angèle avait mal au dos depuis des années, depuis 15 ans. Elle vivait un véritable martyr. Elle devait dormir sur le carrelage, par terre ou sur des planches, parce qu'elle avait mal au dos jour et nuit. Ça engendrait beaucoup de dépression pendant ces 15 années. Dernièrement, elle était vraiment complètement déprimée. Et puis, fin septembre, en 2016, elle a dû même aller sur une chaise roulante parce qu'elle ne pouvait plus se lever. Les médecins lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'opérer. Angèle avait déjà été opérée 5 fois dans son dos. 5 fois on l'a opérée, mais là c'était terminé. Alors, la seule solution c'était de lui mettre une grande plaque dans le dos, mais elle ne pouvait plus rien faire. Une plaque dans le dos rigidifié. Mais les médecins lui ont dit c'est même préférable qu'on ne vous opère pas, votre colonne vertébrale elle est morte. Il n'y a plus rien à en tirer, morte, zéro. Voilà. Alors, le jeudi 7 novembre, son mari José est venu prier ici, à Saint-Nicolas-des-Champs, il vient régulièrement. Et au même moment, il s'était mis d'accord avec sa femme, au même moment il a dit à sa femme, à l'hôpital, sur ta chaise roulante, tu vas prier en même temps que moi. Et il y a Thierry, son beau-frère, le beau-frère d'Angèle, qui est venu soutenir Angèle dans sa prière à l'hôpital. Donc au même moment, elle priait à l'hôpital, et José, il priait ici pour son épouse. Il y a une parole de connaissance qui a annoncé qu'une personne était venue prier pour une autre personne à l'hôpital et que cette personne qui est à l'hôpital allait guérir. Le Seigneur la guérissait. Elle pourrait se lever de sa chaise roulante. Voilà ce que disait la parole. Alors le lendemain, donc le vendredi matin, José va voir sa femme. Il la trouve debout et elle ne souffrait absolument plus de rien. Elle ne souffrait plus du tout. Donc elle était complètement remise par le Seigneur, sa colonne vertébrale ne lui faisait plus aucun mal. Et ensuite, elle m'a raconté, Angèle, que pendant un mois, elle a ressenti comme de l'électricité qui est passée dans sa jambe et dans sa colonne, comme si le Seigneur la revivifiait. Et elle disait à son mari, « Le Seigneur finit le travail. » Donc elle a pu se lever de sa chaise roulante le lendemain de cette prière, alors que les médecins lui disaient qu'on ne pouvait absolument plus rien faire pour elle. Alors, le plus extraordinaire, c'est que donc le 7 novembre, elle a pu se lever. Le 27 décembre, Angèle se casse le pied, donc on lui met un plâtre au pied. Et là, elle va devoir sauter à cloche-pied sur son pied, donc c'est extrêmement douloureux pour sa colonne. Et ben même en sautant à cloche-pied sur son pied avec un plâtre, elle n'a absolument pas mal au dos. Elle n'a absolument pas mal au dos. Voilà. Donc le Seigneur l'a guérie. Alors pour vous décrire un petit peu cette famille, on se dit ben, comment ils ont fait pour avoir cette guérison et toutes ces grâces qu'ils ont obtenues. C'est une famille qui prie beaucoup. C'est une famille qui prie beaucoup. Ils prient, ils m'ont dit, tout le temps. Ils prient dans la rue, ils prient au travail, ils prient le soir, ils prient le matin. Ils participent même à un petit groupe de prière là où ils sont, dans une petite chapelle, le vendredi. Et puis José m'a dit, moi ça fait 15 ans que je prie pour ma femme. Parce qu'elle est déprimée, là c'était terrible. on lui donnait des comprimés antidépresseurs, etc. C'était vraiment, là, c'était, elle était vraiment au fond du trou quand le Seigneur l'a guérie. Et ça fait vraiment 15 ans que je prie pour elle. Donc ça montre aussi qu'il est persévérant dans sa prière et que c'est pas parce que sa femme n'était pas guérie dans la seconde où il a commencé à prier qu'il s'est découragé. Voilà. Donc vous voyez que le Seigneur, quand on a la foi, eh bien il nous entend. Il est prêt à venir à notre secours et il a pitié de nous. Alors peut-être que vous, ça fait peut-être pas depuis 15 ans que vous priez, mais voilà, commencez à prier le Seigneur, continuez à prier le Seigneur. C'est vraiment un exemple qu'on peut faire, on peut ouvrir le cœur du Seigneur et on peut obtenir des guérisons incroyables. Merci Seigneur pour cette guérison.
Eh bien voilà, je voulais remercier le Seigneur pour toutes les grâces de guérison qu'il m'a fait sur moi. Et je vous invite à prier le Seigneur, ça vous arrivera aussi. Merci, bonsoir.
Merci beaucoup.
Oui, je vous invite vraiment à prier le Seigneur. Continuez, même si vous croyez qu'il vous abandonne, il ne vous abandonne pas. Il est toujours avec vous et il sera toujours avec vous. Il est plein d'amour pour chacun d'entre nous. Mais priez les uns pour les autres surtout. Ça fait 20 ans que je viens ici, ça fait 20 ans que je prie pour toute l'Assemblée. Je ne prie jamais pour moi, mais je prie pour les autres. Merci. Que le Seigneur soit béni. Bénissez.
Oui, José m'a raconté que ça fait 20 ans qu'il vient à cette prière. Et au début, il y avait 50 personnes qui priaient là, pour les malades. Puis vous voyez, la prière, elle a grossi jusqu'à aujourd'hui. Donc il est fidèle à cette prière. Et il m'a dit qu'il avait fait venir plus de 150 personnes à cette prière. Donc il évangélise aussi et il amène des personnes pour qu'elles aussi elles puissent bénéficier des grâces dont cette famille a bénéficié. Voilà, merci Seigneur. Louange à toi, Jésus.